nous a dit qu'après l'Akedah, Abraham Avinu est allé à Beersheba. Rashi avait dit déjà, à ce moment-là, que c'est vrai qu'il est allé à Beersheba, mais il habitait Hébron. Et du coup, la question à laquelle je ne répondrai pas, mais c'est une question quand même, c'est qu'est-ce qu'il est allé faire à Beersheba? Oui, s'il habite Hébron, après ça, il aurait dû aller à Hébron. Mais il n'y est pas allé, il est allé à Beersheba. Rachid a jugé effectivement nécessaire de nous dire que il est allé à Beersheba. C'est les derniers, enfin, presque les derniers mots, juste avant le maftir. Yeshev Avraham bi Beersheba. Beersheba. Et Rachid dit, lo yeshiva mamash. Donc, Rachid a un problème. C'est marqué Vayeshev. Or, yeshiva, ça veut dire qu'on est établi. La chevet, ça veut dire être assis, ça veut dire qu'on est de plein pied, si on peut parler comme ça. Il habite, ça irait bien pour quelqu'un qui habite. Alors, comment ça se fait qu'on utilise le mot vayeshev alors qu'il n'y habite justement pas? Rashi dit, lo yeshiva mamash. Sha'arei b'Chevron haya yoshev. Yud-bet shanim lifnei akidato shel Yitzhak. Yatsa mi Beersheba. 12 ans avant la Akeda, il avait quitté Beersheba, qui était l'endroit où il habitait, ve'alach lo l'Chevron. Kmo she'nemar, va'yigar Avraham ba'eretz Plishtim, yamim rabim, Merubim Michel Hebron Arishonim. Plus longtemps que les premiers mots, premiers temps où il était à Hebron. C'est-à-dire, Kavav Shana, Kmo She Pirashnu Lemala. C'est-à-dire finalement 26 ans, comme j'ai expliqué plus haut. OK, donc, il est à Beersheba. Je ne sais pas encore une fois pourquoi il est allé là-bas, mais on voit bien qu'il y était, puisque quand Sarah meurt à Hébron. Sarah, elle était chez eux à Hébron. Elle meurt à Hébron. Et Abraham, le passouk dit, Vayakom, non, pardon, Vatamot Sarah Bekiriat Arba, et Hébron. Vayavo Avraham, l'ispod de Sarah, velivkota. Et Avraham est venu de Beersheba à Hébron pour pleurer, pour faire le hesped, pour enterrer Sarah. C'est une question, je ne sais pas. On va sauter la négociation d'Avraham avec Ephron. Sauf qu'on va juste rappeler en passant que le montant que Ephron a demandé à Abraham de payer pour la caverne avec un bout de terrain parce que il n'osait pas est absolument, absolument irréaliste, complètement fou, etc. 400 shekels, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais l'amour d'Ephron pour l'argent est énorme. Laban, il va aussi avoir un amour de l'argent très important. C'est des gens qui sont poussés par leur amour de l'argent. Ils s'en rendent même pas compte. Je ne sais pas comment il faut interpréter. Ephron dit à Il dit à Abraham, on va pas en faire une histoire, 400 shekels, entre nous, c'est rien du tout. En fait, c'est des millions de dollars aujourd'hui. C'est rien du tout. Mais il tend la main, quoi. Mais donne. Donc, il y a un petit problème pourquoi Abraham accepte de payer ce prix-là. Mais de ça, on a déjà parlé souvent du rapport de l'argent, de Avot avec l'argent, avec l'acquisition des biens plus exactement. On en avait parlé qu'avec Yaakov qui retourne au risque de sa vie, il retourne pour chercher les petits pots qu'il avait oubliés de l'autre côté de la rivière. Bon, on a déjà parlé de ça, on en reparlera peut-être. Donc, ça c'est cette négociation, bon, on connaît. Et voilà. Après cet épisode-là, finalement, Abraham a réussi à enterrer Sarah. Et alors, la Torah nous dit qu'à ce moment-là, Abraham a réfléchi et il s'est dit, mais si j'avais tué effectivement Yitzhak, j'aurais tué tout mon futur. Et donc, il y a une erreur dans ma façon de faire les choses. J'aurais dû veiller à ce que Yitzhak se marie. Yitzhak a 37 ans à la Akedah. C'est pas un petit gosse, hein. Donc, j'aurais dû veiller à ce qu'il se marie. S'il s'était marié, il y aurait eu des petits-enfants éventuellement. Et du coup, même si j'avais tué Yitzhak, il y avait une possibilité que les choses continuent avec les petits-enfants. Et donc, il va chercher à marier, va s'occuper de marier Yitzhak. Alors, puisqu'il a 37 ans, on peut se demander pourquoi c'est pas lui-même qui s'en occupe. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, mais une des raisons, c'est que si on considère que Yitzhak, s'il cherchait une femme, il chercherait une femme de la même manière que Abraham a cherché une femme pour lui, à savoir, il prendrait pas une cananéenne, d'accord, il prendrait pas une locale, il habite parmi les cananéens, mais il prendra pas une fille de l'endroit, il faudra qu'il aille dans la maison paternelle d'Abraham. Or, quand Hachem a donné à Abraham l'ordre, Abraham a pris pour un ordre de sacrifier Yitzhak, mais qui s'avère être un ordre de lui donner un statut de Ola sans le sacrifier, c'est-à-dire lui donner un statut de quelque chose qui est entièrement consacré à Hachem. Et une Ola, que ce soit le Corban ou donc par extension Yitzhak, une Ola ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Sa Gdusha l'empêche de sortir d'Eretz Israël. Donc Yitzhak ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Donc il ne pouvait pas aller chercher une épouse lui-même. Alors Abraham, il n'y va pas lui-même non plus, peut-être parce qu'il est trop âgé. Et il convoque son intendant, c'est sûrement une question d'âge parce que le passouk avant la convocation en question, on nous reprécise qu'Abraham Zaken Baba Yamim, qu'Abraham est un grand vieillard. Et qu'Hachem a donné une bracha à Abraham Bakol. Alors sur ce Bakol, il y a des tas de choses à dire. On pourrait se contenter de dire aujourd'hui que certains disent que Bakol, c'était le nom de la fille d'Abraham. Il avait une fille. Mais comme on ne nous en parle pas par la suite, la fille qu'il aurait eue, après ça, c'est une fille qu'il aurait eue avec Agar, évidemment. En tout cas, il va parler. Abraham parle, Vayomer, il parle. El Avdo, à son esclave, Zekan Beto, Rachidi, nous explique surtout pourquoi c'est pas marqué, pourquoi c'est pas Zaken, mais Zekan, parce que c'est une forme construite, Davouk. Bon, donc c'est l'ancien, c'est le plus ancien de ses serviteurs, de ses esclaves. Amoshel Bechol Asherlo. Il est l'intendant de la maison, c'est lui qui dirige la maison. Et il lui dit, Simna yatra tafatirechi, et vashbiacha b'ashem eloke ha-shamayim ve-eloke ha-aretz, asher lo tikach isha livni, vibnot ha-knani, asher anochi yoshev ve-kirbo. Et il va faire jurer Eliezer. D'abord, il lui a donc dit que, on comprend du contexte, qu'il lui a dit, c'est, tu vas aller chercher une femme pour mon fils Yitzhak, et il l'a fait jurer qu'il ne prendrait pas une cananéenne, mais qu'il irait au contraire, Imel Arzi, El Molanti, Telech, tu iras vers, dans mon pays, dans ma patrie, dans l'endroit où je suis né, Velakarta Isha Livni, le Yitzhak, et tu prendras une femme pour Yitzhak, mon fils. Et Eliezer, enfin l'esclave, répond à, il dit, mais Oulai l'Oteove Aisha l'Alechet, peut-être que la fille que j'aurais trouvée, la femme que j'aurais trouvée, elle ne voudra pas venir. Pourquoi est-ce qu'elle accepterait de venir avec moi à Harai? Elle a arrêté sa zone, c'est très loin de la Mésopotamie, en fait. En vérité, il n'ira pas aussi loin que au Kasdim. Il va aller seulement à Aram Naharaim. Mais bon, c'est quand même très loin pour une jeune fille. Pourquoi elle viendrait avec lui, quoi? Alors il dit, alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je vais amener ton fils là-bas? Si la fille est vraiment excellente, qu'il faut l'épouser, ben, si elle ne vient pas, il ne faut pas que lui aille chez elle. Alors Abraham lui dit, en aucun cas, chas v'shalom, ishamer lecha pen. C'est-à-dire, fais bien attention à toi, surtout ne fais pas une chose pareille, petachiv et benishama. Je ne veux en aucun cas que tu amènes mon fils là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire si elle ne veut pas venir? Alors, Abraham lui dit, Hashem, Eloke Hashamaim, Asher lekachani mi bet avi, me'eretz molati, v'asher diberli, v'asher nishbali, lemor, bezaracha eten et haaretz hazot, hu yishlach malacho lefanecha, v'lakachta isha livni misham. Hashem enverra un envoyé qui va te guider et tu pourras prendre une fille de là-bas. Mais si vraiment, si la fille finalement elle veut pas venir avec toi, alors tu es complètement libéré de ce serment là que je t'ai fait faire. Raket beni lo tashev shama. Mais en tout cas, donc mon fils, surtout n'amène pas mon fils là-bas. Et Vayasem Eved et Yado Tahat Yerech Abraham, Adonav, Vayishavalo al Hadavarazé. Et donc, il a fait ce que Abraham lui a demandé, il a juré, avec cette procédure-là, de mettre la main sous la cuisse. Alors, sur cette procédure-là, certains expliquent que c'était l'habitude de jurer de cette façon-là. On peut penser que, si vous voulez, si quelque part celui devant qui il s'engage en jurant s'assied littéralement sur la main de celui qui jure, donc il le domine complètement, donc c'est une forme de soumission en quelque sorte. Je me soumets entièrement à toi dans ce que tu me demandes. Mais les Farshim, le Ramban, disent, mais on ne peut pas imaginer qu'Abraham utilisait ces procédures-là, qui sont les procédures de tout le monde, ici, dans ce cas-là. Lui, il avait sûrement une autre idée. Et donc, il faut interpréter ce même geste. Ça arrive souvent que la Torah, on utilise les mêmes gestes ou les mêmes paroles que tout le monde, sauf qu'on leur donne un autre sens. Et donc là, le texte dit simplement « tu mets ta main sous ma cuisse », il ne dit pas plus. Comme vous savez certainement, Yaakov va faire la même chose avec Yosef. Yaakov va exiger de Yosef, Yosef jure qu'il ne l'enterrera pas en Mitzrayim et qu'il allait l'enterrer en Eretz Israël, avec la même procédure. Alors c'est quoi le nouveau sens? Alors, quand quelqu'un parle, a priori, on le croit. Mais maintenant, s'il y a deux personnes qui parlent, deux juifs sérieux qui parlent et qui disent des choses contradictoires, donc on croit les deux, comment on se débrouille, dit des choses contradictoires. Alors des fois, quand on doit et qu'on peut trancher, on va trancher de la manière suivante, on va demander à l'un des deux de jurer. De jurer quoi? De jurer que, jurer c'est donner du poids à sa parole, un poids supplémentaire. Il y a la rescate cacheroute de monsieur tout le monde, a priori, sauf preuve du contraire. Et si, effectivement, ils ont tous les deux la même rescate cacheroute, alors on peut toujours pas trancher entre eux, alors on va demander à l'un de faire pencher la balance en donnant du poids, un poids supplémentaire à sa parole. Comment? En jurant. Qu'est-ce qu'il y a dans le serment, dans la Shvouah, qui donne du poids? C'est que la Shvouah, ça se fait avec le Shem Hashem. Ça se fait en utilisant le nom divin. Si quelqu'un dit simplement « je jure », s'il a rien dit du tout, il faut qu'il jure en utilisant le nom divin. Et donc, il y a ce risque, donc on considère qu'on a affaire avec des gens sérieux qui vont pas utiliser le nom divin en vain. Donc, on pense que s'ils jurent avec le nom divin, ça donne vraiment du poids à sa parole puisqu'il s'engage vraiment plus aussi profondément qu'il le peut. Seulement, il y a, même là, d'une certaine manière, il y a encore des dargotes, il y a encore des niveaux différents de poids qu'on peut donner à la parole. On peut jurer, ça donne un poids supplémentaire, et on peut jurer en tenant un objet de mitzvah. Par exemple, on peut demander à quelqu'un de jurer en tenant un Sefer Torah. Ok. Abraham Avinu, il n'y a pas d'objet de mitzvah puisqu'il n'a pas, il n'a reçu comme mitzvah que, jusqu'à présent, que la mitzvah de la Akedah. Bon, c'est pas un loulav, c'est pas un shofar, c'est pas un Sefer Torah, etc. Alors, ici, Chazal va nous expliquer qu'en fait, il va faire jurer Eliezer en tenant l'objet de mitzvah, c'est-à-dire le membre d'Abraham, qui est qu'Abraham peut faire. Chez nous, ça ne marcherait pas, c'est pas pour nous. Le membre, ce n'est pas un objet de mitzvah. C'est l'objet sur lequel on a fait une mitzvah, mais ce n'est pas un objet de mitzvah. Mais Abraham, semble-t-il, il était à un niveau tel que pour lui, c'était devenu quasiment un objet de mitzvah. Il n'y en avait pas d'autre, d'ailleurs, hein, à l'époque. Et donc, il a bien mis la main sous la cuisse, mais en fait, ça s'appelle l'Ekitat Refetz. Il tenait un objet de mitzvah, donc pour donner encore plus de poids à son servant. Alors pourquoi Eliezer, il avait qu'à prendre son membre à lui? C'était aussi un objet de mitzvah. Bon, il faut que l'objet soit quelque chose d'autre que lui-même. Son propre corps ne peut pas servir pour lui d'objet de mitzvah. Donc, il le fait jurer et il va jurer. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte, c'est que dans l'explication, Eved, l'esclave en question, tout le monde sait que c'est Eliezer, mais c'est marqué nulle part. Le nom d'Eliezer ne figure qu'une seule fois dans la Torah. Il a déjà été utilisé, c'est quand Abraham a reçu une promesse d'Hachem qu'il allait avoir une descendance, etc. Et Abraham a dit à Hachem, mais tu me fais des promesses, mais j'ai même pas d'enfant. Mais Damasek Eliezer, Eliezer de Damas, c'est lui mon intendant, c'est lui qui va être mon héritier. Là, c'est la seule fois où on parle d'Eliezer. Dans toute la Torah, on parle jamais d'Eliezer. Et dans le Tanakh, on parle, ou même, on parle dans Shemot d'un Eliezer, mais c'est le fils de Moshe Rabbeinu, c'est pas du tout lui. Eliezer en tant qu'Eliezer Eved d'Abraham, il n'y a qu'une seule occurrence, c'est celle que je viens de citer. Donc c'est très intéressant que ici, ça veut dire, bon, on peut réfléchir sur ce que ça peut vouloir dire, que de ne jamais le nommer. C'est-à-dire, enfin, cet esclave-là, il disparaît complètement dans sa fonction. Il n'est appelé que dans sa fonction de Eved d'Abraham. Eved, gestionnaire, tout ce que vous voulez, mais il est appelé uniquement par sa fonction. Comme si il n'a pas de nom, pourtant c'est un nom magnifique, Eliezer, qui par la suite a été utilisé par Moshe Rabbeinu, puis ensuite, tous les Eliezer connus qu'on connaît, que ce soit la Mishnah, c'est un très très beau nom. C'est son nom, mais on ne l'utilise jamais. Et donc, voilà. Donc, on a deux questions pour lesquelles je ne sais pas répondre. Ce qu'Abraham faisait à Beersheba. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne jamais le nom d'Eliezer? Alors, on a donné des éléments, mais je ne sais pas, je n'ai pas de source pour tout ça. Alors, la Torah, elle va très vite dans cette affaire. Immédiatement après que il est juré. Jure immédiatement, va Eved, Asara Gmalim, Migmale Adonav. L'esclave a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître. Va Yeler, et il s'en est allé. Le Koltou va Adonav Biyado. Il avait tous les biens de son maître dans sa main. Alors, il n'est pas parti avec tous les lingots, etc. d'Abraham, il est parti avec un shtar, avec un document par lequel Abraham donnait tous ses biens à Yitzhak. Et le shtar en question, il est dans la main d'Eliezer. Eliezer, quand il va arriver, il va montrer que il parle pas au nom de n'importe qui, il parle au nom d'un millionnaire, quoi. Chez Laban, chez Betuel et Laban, ça veut dire quelque chose, avoir beaucoup d'argent. Et il est parti dans direction d'Aram Naharaïm, El Ir Nahor. Aram Naharaïm, c'est la ville de Nahor. Nahor, c'est le troisième fils de Terach. C'est le frère d'Abraham. Abraham avait deux frères. Un Haran qui est mort, qui était le père de Sarah et de Lot. Et Nahor qui était plutôt resté du côté de l'idolâtrie, même quand Terach est descendu en direction de Eretz Kanaan avec Abraham, c'est-à-dire que Terach, il avait fait un bout de chemin quand même avec Abraham, avec les valeurs d'Abraham, ça veut dire, Nahor, lui, non. Il est resté à Ramnaharim, il est resté là-bas. Donc, il arrive là-bas dans la ville de Nahor. Voilà. Alors, il y a encore une chose. Franchement dit, ça intéresse qui a pris 10 chameaux. Et évidemment qu'il y a toute une caravane qui est partie avec lui, il n'est pas parti tout seul, Eliezer. Et donc, il y avait des moyens de transport avec, des moyens de transport et de qui pouvait transporter des charges et tout ce que vous voulez. C'était là, puisqu'on traverse des étendues probablement désertiques, on circulait avec les chameaux. Est-ce que ça peut bien? Et puis quand la Torah va se mettre à nous donner enfin, c'est important, c'est les chameaux, puis en plus c'est les chameaux de son maître. Voilà, on voit pas pourquoi il prendrait les chameaux de quelqu'un d'autre. Il aurait pris un taxi, une location de chameau taxi, plutôt que de prendre les chameaux de son maître. On voit pas pourquoi. Alors évidemment, Rachid dit, que vous connaissez probablement déjà, on le sait de l'histoire avec Lot, etc. Migmale Adonav, Rachid ramène le Midrash, Nikarim Ayu Mishar Malim. Les chameaux d'Abraham, ils étaient reconnaissables parmi les autres chameaux, Shayu Yotsim Zmumin. Ils sortaient muselés. Pourquoi? De nouveau, par la même raison que Abraham a payé si cher, etc., c'est parce que Ipnea Gezel. Les Avot, ils faisaient très attention de ne pas voler. Donc, ils ne voulaient pas que les chameaux aillent manger sur les territoires d'autres gens. Donc, il a empêché les chameaux de manger en les muselant. Le Ramban dit, enfin, tout le monde en parle un peu, le Maharal d'abord, le Ramban tout de suite, le Maharal dit, il dit là, le Maharal dans Gourarié, oui, sur le Rashi qui dit Nikarim Ayu, le Maharal de Prague dit Afalgav de Chamor de Rabbi Pinchas ben Yair lo haya ochel min hagezel. Le Maharal dit, on a une histoire dans la Gemara que l'âne de Rabbi Yochanan de Rabbi Pinchas ben Yair, il avait refusé de manger du non-meoussar. Il mangeait pas, parce que c'était pas, on n'avait pas pris maaser, donc il mangeait pas. Donc, l'âne de Rapinras Ben Yair, il était un sadique, quoi. Il mangeait pas n'importe quoi. Alors, le Ramban, lui, le Maharal, il dit seulement ça, et dit, alors il dit, mais, alors pourquoi il met des muselières si de, enfin, sous-entendu, ce que dit explicitement le Ramban, dit, c'est pas possible d'imaginer que les chameaux d'Abraham étaient pas aussi religieux que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc c'est sûr que les chameaux ne mangeraient pas le gazelle. Donc on n'a pas besoin de les museler. Alors pourquoi ils les musellent? Parce que si les chameaux, quand même, quand des chameaux ou bien un âne ne mangent pas des choses à cause du gazelle, c'est quand même un peu miraculeux. Ça fait pas partie des lois de la nature, hein. C'est un peu miraculeux. Et par conséquent, dit le Maharal, et kol makom asur lismokh al hanes. On n'a pas le droit de s'en remettre au miracle. Et donc, il a mis une muselière. En principe, ça sert à rien parce que les chameaux n'auraient de toute manière pas mangé, mais si on ne met pas de muselière, ça veut dire qu'on est sommaire. Ils vont pas manger. C'est un S. Maharal dit, on n'est pas sommaire sur le Ness. Non, Ramban, il soulève le problème aussi. Donc, on voit très bien qu'il y a une recherche de la part d'Abraham Avinu. C'est complètement fou, quoi, on entend. On met des muselières à des animaux qui, de toute manière, n'ont pas mangé. Et donc il a chargé les gmalim hors de la ville avant d'arriver, et il arrive l'Erev, au moment où sortent les puiseuses. Bon, ce sont les femmes qui vont puiser. A priori, on pourrait imaginer que ce soit des bergers, au temps de Yitro. À part les filles d'Yitro, parce que Yitro, il n'avait pas de garçons, il ne pouvait pas envoyer ses garçons. Mais les autres, c'est des bergers qui font des tsaot aux filles. Là, ce sont les filles qui vont puiser de l'eau. Déjà, garder les moutons, c'est un truc. Déjà un peu compliqué pour des petites filles. Et là, il y a une petite fille qui a 3 ans et qui s'occupe des troupeaux. Elle va puiser. Et alors, Eliezer va prier. Il prie et il demande à Hachem, Hachem tu es le Dieu de mon maître Abraham, fais en sorte que, fais du chesed pour Abraham, fais en sorte que, voilà, moi je vais demander, il met au point un test. Je me tiens là vers le puits d'eau, vers la source d'eau, et les jeunes filles vont venir, donc les bergères, les gens de la ville vont venir, et la jeune fille à laquelle je demanderai Atina Kader Vehechte, à laquelle je demanderai, penche ta cruche de telle sorte que je puisse boire. Ve'amra shete ve'gam gmalecha ashke, bois, je vais aussi abreuver des chameaux. Ota hochachta le'avdecha le'Yitzhak. Ça, c'est un signe que tu m'as montré que cette fille-là, elle est déterminée. Tu l'as déterminée pour être la femme d'Israël. Et je saurai alors que tu as fait du chesed avec mon maître. Donc, il a mis au point un test. Alors, ça ressemble beaucoup à un nichouche. Ce genre de choses qui sont absolument interdites. Si le bus arrive dans les 5 minutes, je vais à droite. Si le bus arrive après, je vais à gauche. C'est des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. Ça s'appelle nichouche. Et donc, tout le monde demande comment est-ce que ça fait qu'on a fait ici un nichouche. Eliezer, Eved Avraham. Alors, on peut expliquer qu'il ne s'agit pas d'un nichouche. Pourquoi ce n'est pas un nichouche? Parce que dans nichouche, c'est si le bus arrive dans 5 minutes, ça n'a rien à voir avec le fait que je vais aller à gauche ou à droite. Mais ici, il y a un contenu, il y a un sens. Le test n'est pas simplement un test, simplement, voilà. Si elle porte une robe bleue, ça sera la bonne. Et si elle porte une robe rouge, c'est pas la bonne. C'est pas ça qu'il s'agit. Dans la maison d'Abraham, la caractéristique de la maison d'Abraham, c'est le chesed. Et par conséquent, on peut penser que pour, enfin, c'est ce que pensait Eliezer, que pour une femme qui va prendre la suite, en fait, dans la maison d'Abraham, le test, ce sera, est-ce qu'elle aussi, elle a une bala tressée? Est-ce qu'elle est capable, elle aussi, de tresser? Donc, lui pense que le chesed, en fait, ce sera de dire d'en faire plus que ce qu'on lui a demandé. Il lui demande, donne-moi à boire. Elle lui donne à boire et elle donne aussi à boire au chameau. Par conséquent, c'est pas un test, c'est pas simplement un épouche, c'est vraiment un test. Savoir les qualités de Rivka. Donc, Rivka passe le test avec succès. Voilà. Et lui, il regarde. Il est Mishtaela, Macharish. Il est ébahi, quoi. Il en peut plus. Il se demande, mais vraiment, c'est en train de se faire. Je vois devant moi, en quelque sorte. Itzliach Hashem darko. Est-ce qu'Hashem a fait réussir le chemin qu'il a pris? Et quand, après qu'elle est complètement, qu'elle est vraiment donnée à boire au chameau, alors il lui a donné des cadeaux tout de suite. Il lui donne Nezem, Zahav, etc. Sans savoir qui elle est, hein. Il ne sait pas qui elle est. Seulement après, il lui demande Bat Miat. Alors, il était tellement certain. Ben voilà, j'ai fait un test, Hachem m'a répondu. Je ne sais pas qui exactement elle est, mais c'est ce qu'il faut, quoi.
Le fait qu'il court vers elle au début.
Oui, il est couru pour
elle. Le Krata, il a suivi sur place. Il a vu que l'eau montait vers elle.
C'est ça.
C'est aussi
il a vu quelque chose. Et c'est pour ça que c'est à elle qu'il a demandé ça. Il a vu quelque chose chez elle quand même. Et à ce moment-là, il lui a demandé. Donc on voit, premièrement, on voit qu'il a remarqué la chose, mais à soi tout seul, ce n'était pas suffisant. Le chef, il lui arrive un miracle, que l'eau vienne, alors que normalement, ça ne se passe pas comme ça. Ça l'a marqué, mais ça ne l'a pas impressionné. C'est pas ça le. Il faut que ça soit du chesed. C'est un miracle, mais ce n'est pas du chesed. Bon, alors ensuite, on connaît la suite. Effectivement. Il va y avoir une négociation pour obtenir qu'elle vienne avec lui, mais on va regarder ça un peu plus en détail.
Le fait qu'il soit étonné de Mishtaï.
De Mishtaï, ouais.
Comment est-ce que le comprend? Est-ce que ça veut dire qu'il ne croyait pas vraiment à son test?
Non, ça veut dire il a fait un test, il vient d'inventer un test. Et quoi, comme il dit, Itzliach Hashem darko. J'ai choisi un chemin et Hashem le fait réussir, quoi. Mon test s'avère le bon test. Elle réussit ce test, donc mon test est efficace. Il m'a permis de la choisir. Alors, il y a. Je vais revenir un tout petit peu, on va revenir là-dessus, mais quand on a dit qu'il était parti avec tous les biens de son maître, et qu'il s'agissait d'un shtar, d'un document, et Le Maharal, sur le Shtar, il dit la chose suivante. Il dit, Deim Loken, si ce n'était pas avec un Shtar, comment on peut entendre Kol Tuv Adonav Beyado? Il peut pas, il se promène pas avec tous les biens d'Abraham. Vim Tomar, Ech Ursha Abraham, Leavir Nachala mi Ishmael. Abraham, il a deux fils. Il a donc deux héritiers. Comment est-ce qu'il a eu le. Comment est-ce qu'il a osé déshériter, en fait, Ishmaël? S'il donne tout à Yitzhak, il n'y a plus rien pour Ishmaël, mais on ne peut pas déshériter Ishmaël. Ça, ce n'est pas vraiment une question, dit le Maharal. Sharé Amra Sarah, Kilo Yirash, Imbeni Yitzhak. Je ne veux pas qu'Ishmaël hérite en même temps que mon fils Yitzhak. Il semble-t-il, Hachem a validé ça. Ça veut dire, c'est par nevoua, et donc, effectivement, Hachem a validé les choses. Quelque part, on peut presque dire que c'est dans la suite de ce qu'Hachem lui a dit, de tout ce que te dira Sarah, Shema Bekola. Suis, c'est de la nevoie, elle est plus grande que toi en prophétie, tu suis ce qu'elle te dit. Alors du coup, il retourne la chose, le Maharal, et il dit, Adraba, yesh litmoa, il faut s'étonner, machinatan matanot livnea pilakshim. Au moment de la mort d'Abraham, juste avant, on dit qu'il a donné des cadeaux aux enfants des Pilakshim, des concubines. Enfin, finalement, là-bas, Rachid dit, il n'y en a qu'une seule. Il y a un problème avec la Girsa de Rachid, là-bas, l'écriture. Il n'y en a qu'une seule, c'est Agar. Et donc, c'est Ishmaël. Ishmaël est le fils d'Agar. Agar a eu plusieurs fils d'Abraham. Donc, ces gens-là, ils reçoivent des cadeaux de la part d'Abraham. Comment il a pu le donner des cadeaux? Il avait déjà tout donné à, il a tout donné à Yitzhak. Donc, il est en train d'enlever des choses qui appartiennent à Yitzhak et pour les donner aux enfants d'Agar. Alors, le Maharal dit, Shema, haynu shetiresh rashi, Shem Touma Masar Laem. Klomar, Shelo Natan Laem Shum Davar. Alors ici, le Maharal fait référence à la chose suivante. Il y a une lecture qui dit que les cadeaux que Abraham a fait à ses enfants, c'est il leur a donné littéralement Shem Touma, c'est-à-dire le nom des idoles. C'est quoi? Il donne des noms d'idoles à ses enfants. Bon, il leur a donné le nom de quelque chose, ça nous dit la chose. Quand Adam Arishon a nommé les choses, si c'est simplement une question de convention, n'importe quel idiot peut donner des noms à tout ce qu'on veut. Seulement, en Lashon HaKodesh, les noms sont censés refléter la chose, refléter la structure, les qualités ou les défauts, toute la personnalité, etc., des choses, ou des hommes, etc. Et donc, donner le nom des idoles, ça voulait dire décomposer le nom des idoles, dire ce que veut vraiment, ce qu'il y a vraiment derrière l'idole en question, quelles sont les idées, quelle est la philosophie qu'il y a derrière, etc. Et aussi, comment les prêtres de ces idoles arrivent à tromper les gens, avec de la magie, avec etc. Tout ça, Abraham leur a donné. En fait, c'est une façon de les protéger de l'idolâtrie. Il leur a donné de quoi ne pas être séduits par les idoles. C'est ça le cadeau qu'il leur a donné. Alors, du coup, il n'a rien enlevé à Yitzhak. Maintenant, on peut, puisqu'on parle de ça, on peut donner une autre explication. On a vu ici qu'il a donné à Yitzhak et Kol Asher Lo. Il a donné tout ce qui était vraiment à lui. Abraham, c'était un personnage public. Et par conséquent, c'est un prince. Donc, il y a toutes sortes de gens qui, pour des raisons diplomatiques, on pourrait dire aujourd'hui, ont été obligés de lui faire des cadeaux. Quand on allait chez lui, était obligé de lui faire des cadeaux, comme ces cadeaux-là, Abraham les a mis dans une armoire spéciale. Il considérait pas que c'était à lui au même titre que les choses qu'il avait acquises. Puisque les gens qui lui ont donné ça, le lui ont donné parce qu'ils étaient obligés de lui donner. L'idée étant que quand Yaakov est retourné chercher les fameux petits pots là qu'il avait laissés, alors on a expliqué que les avots, ils étaient très à cheval sur la notion de gazelle. L'Ohayou, ils ne voulaient pas toucher aux gazelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des voleurs. C'est tout ce qu'on a trouvé à dire sur les avots. C'est pas des voleurs, c'est pas mal, mais bon. Alors c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose chez quelqu'un, si la personne en question c'est un artisan, un artiste, etc. Vous lui achetez quelque chose, souvent c'est l'or. Produits de leur art, ça, ils n'ont pas du tout envie de le vendre. Mais ils sont souvent obligés de le vendre. Je parle de véritables artistes. Ils sont obligés de le vendre parce que sinon, ils n'ont pas de quoi manger. Modigliani, il était bien obligé de vendre ses toiles parce que sinon, il n'avait pas de quoi manger. Il ne pouvait pas non plus acheter d'autres toiles, enfin, d'autres, de la toile pour peindre. Il ne pouvait pas acheter des couleurs, etc. Donc, il vend. Et il vend à son corps défendant. Les artistes, on nous dit, les artisans, le potier, il tape sur la Gemara, il nous dit, il tape sur les pots pour savoir lesquels sont parfaits, lesquels, d'après le son que ça donne, ça nous dit s'il y a des fissures, etc. Et ceux, les meilleurs, ils se les gardent, ils ne les vendent pas, ils ne veulent pas les vendre. Les avots, quand ils allaient acheter chez un artisan, ils allaient surpayer pour être sûr que celui qui leur vend, il leur vend avec aucune arrière, il y a aucun arrière-goût en quelque sorte. Il reste rien de la propriété de l'artisan dans l'objet que les avots ont acheté. Vous achetez une poterie, c'était une super poterie. Et peut-être il reste quand même l'attachement du potier à cette poterie-là qu'il a parfaitement réussi. Et Avot, il voulait pas de ça. Donc, pour ce faire, ils étaient obligés de surpayer, parce qu'en payant au-delà de sa valeur, ça touchait l'artisan d'une autre manière. Il disait, ah bon, j'ai fait une super affaire, je lui ai vendu les choses 5 fois plus que ce que ça valait. Donc, il a une satisfaction. Là, il s'en est séparé, mais bon, là, il était d'accord de s'en séparer. L'idée que les choses qui sont produites par des artisans, des artistes, continuent de leur appartenir même quand ils le vendent. Parce qu'on considère certaines manières qu'ils ont vendues parce qu'ils étaient obligés de vendre. Ça se traduit dans la loi française même. Bon, si vous avez chez vous, vous avez un Rembrandt, et que Rembrandt vienne et qu'il dise, là, ici, il y a du rouge, là, moi, je préférerais mettre un peu de bleu, vous pouvez pas l'empêcher. Un artiste peut venir modifier la peinture que le tableau que vous avez chez vous, de lui, sans que vous puissiez, vous l'avez payé, rébus sur l'ongle, ce que vous voulez, ça change rien. Vous pouvez pas vous opposer à ce qu'il le modifie. Ça fait partie du droit d'auteur, en fait. On voit très bien que quand quelqu'un est attaché, bon, alors il reste quelque chose, il reste. Les Avot ne voulaient pas ça. Et c'est pour ça qu'ils ont payé, c'est pour ça qu'Abraham aussi, après certains, a payé, a accepté de payer les Arba Mezouz, Shekel, quoi, qui était complètement fou comme prix. Parce que comme, il voulait pas qu'il reste quoi que ce soit d'Ephron dans la possession. Alors, l'idée est que il faut être totalement indépendant. Pour être évêque d'Hachem, il faut être évêque de rien du tout d'autre. Et si on est encore attaché, s'il y a quelque chose de quelqu'un d'autre qui, quelque part, on n'est pas complètement indépendant, on n'est pas vraiment évêque d'Hachem. Donc, pour servir vraiment Hachem, les Avot voulaient absolument être, n'avoir que les choses qui sont complètement détachées de la possession des autres. On peut dire que ça touche à la notion de Kedusha, parce que la Kedusha, c'est la séparation, c'est caractérisé par séparation, comme on dit, Kadosh, ça veut dire séparer. Séparer, ça veut dire quelque chose qui est vraiment sans contact avec les autres choses. Donc c'est ça, ils veulent pas de contact avec quoi que ce soit d'autre pour pouvoir se consacrer entièrement au service d'Hachem. C'est-à-dire, on va pas avoir un contact avec quoi que ce soit d'idolâtre, de l'extérieur, etc. Même si c'est purement formel. Au temps d'Esther et de Mordechai, la reine c'était Esther, le grand vizir c'était Mordechai, et les Chachamim ont dit, on peut pas instaurer de dire à Pourim le Hallel, parce que dans le Hallel on dit Allou Avdei Hashem, et nous ne pouvons pas dire que nous sommes Avdei Hashem, parce que Akate Avdei Achashverosh, nous sommes encore des sujets d'Achashverosh. Donc, on est lié à Achashverosh, et donc, on ne peut pas dire de nous-mêmes qu'on est vraiment Avdei Hashem. C'est énorme. Faut se couper complètement. C'est bien ça, la notion de Kedusha. Et donc, c'est pour ça que ils sont extrémistes. On veut même pas qu'il y ait Marita-Ain sur les chameaux qui vont aller, alors que on sait bien qu'ils vont pas manger, mais s'ils ont pas de muselière, on pourrait penser que peut-être quand même ils vont, pas du tout. Pour empêcher ça aussi, empêcher de penser une chose pareille. Donc ça c'est le, et donc, c'est ce qu'il dit ici. Il y avait ces cadeaux qu'il a reçus. Bien sûr, ils étaient à lui. C'est sûr que si Abraham Avinu avait voulu être Mekadesh, une femme, avec un de ces cadeaux qu'on lui a donné, elle est Mekoudeshet, la femme. C'est sûr que l'argent, que ces biens lui appartiennent. Mais il veut pas construire le Klal Israël avec des biens qui sont encore entachés, en fait, de ce côté, on est obligé de les donner. On les donne pas vraiment. Quelque part, on est encore un peu attaché, et il sait qu'on les lui a donnés, parce que les gens ne pouvaient pas faire autrement. Donc, pour Yitzhak, pour construire le clan Israël, il lui a donné que les choses à Sherlock, qui sont vraiment à lui, que lui considère comme étant à lui. Et les choses qui sont à lui, mais qu'il ne considérait pas, ça, il a donné. Ce n'était pas inclus dans ce qu'il a donné à Yitzhak. C'est une autre explication, une autre réponse à la question du Maharal. Comment est-ce qu'Abraham a pu enlever à Yitzhak des biens qu'il lui avait donnés et les donner aux autres, aux enfants des concubines? Ça, c'est l'histoire du problème du shtar. Maintenant, le chesed, bon, qui était donc la condition que Eliezer voulait voir exister chez Rivka, pour qu'il puisse considérer qu'elle est adéquate pour comme épouse de d'Yitzhak. Qu'est-ce que c'est exactement le chesed? Comment est-ce qu'on peut définir ce chesed? Il y a un enseignement de Rav Volbe à ce sujet-là. Je vais voir si je le retrouve. Donne ici une définition du chesed. Il dit que chesed, c'est riboui. Riboui, c'est plus que. C'est chesed ou shenotnin yoter mimashem vakshim. Et donc, ça veut dire c'est bli gvoul, sans limite. Pas parce que l'autre manque, parce que on aime faire du chesed. D'une certaine manière, quand on donne à un pauvre qu'il demande, on lui donne de la tzedaka. C'est simplement des règles, c'est une façon normale. Quelqu'un te demande, tu ne peux pas le renvoyer comme ça. Mais c'est pas une preuve qu'on est un Baal Tzedaka. Un Baal Tzedaka, c'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'on lui donne. C'est pour ça que Rivka, qui a dit Shete vegam gmalecha ashke, elle n'a pas fait un calcul que, enfin, elle aurait pu dire, ben, Eliezer, il n'est pas venu tout seul, il a lui-même des serviteurs. Ben, ses serviteurs, ils n'ont qu'à donner à boire aux chameaux. Elle a donné sans limite, sans qu'il le demande. C'est ça le chesed. Quand il l'a demandé, est-ce qu'il y a de la place pour chez tes parents pour que je puisse y dormir? Elle a répondu, il y a aussi de la place. Il y a de la place largement. Plusieurs personnes peuvent dormir. Pas de limite. Et en plus, on a même des étables dans lesquelles tu pourras mettre tes chameaux. En fait, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai entendu récemment. C'est que si vous prenez le Chumash, effectivement, Eliezer, il a mis il a défini son test et il a dit Vaya Anahara, Asher Omer Elera, le Pasuk 14, Yuddalet. Je lui dirai, demanderai Atina Kader VHT, et qui me dira Acheté Vegam Gmalecha Ashke, Ota Ocharta Leavdecha Le Yitzhak. Ça, c'est ce que Eliezer a demandé. Et si vous regardez ce qu'elle a fait, vous verrez qu'elle n'a pas fait ça. Regardez, ça vaut la peine de regarder. Prenez le verset Kaf. Vatmaer. Donc il lui a demandé, il s'est approché d'elle. Vatomer, donc il lui a demandé, il a vu que l'eau, etc. Donc il lui a dit Agmina Matmaim Mekader. Donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Vatomer, elle lui a dit Chete Adoni, bois mon Seigneur. Vatmaer, Vatered Kada Aliada, Vatashkeu. Elle avait la cruche sur l'épaule, elle l'a descendue dans ses mains, elle lui a donné à boire. C'est ce qui est marqué après. Vous regardez dans votre roumage que vous devriez avoir devant vous. Bon, c'est un peu paradoxal de dire un cours de roumage sans roumage. Vatral l'ashkoto. Donc, elle a fini de lui donner à boire. Vatomer, elle a dit Gam gmalecha eshav adim kilu lishtot. Vatmaer, vatar kada, shaket, vatratz, od el aber, ishov, vatishav, vechol gmalav. Lui, il attendait, il a dit, moi je vais lui demander à boire, elle va me répondre, je te donne à boire à toi et à tes chameaux. Elle n'a pas fait ça. Elle lui a donné à boire. C'est tout. Il a demandé à boire, elle lui donne à boire. Et après, quand il a fini de boire, elle a regardé, elle a vu, il y a encore des chameaux. Ah, il y a encore quelque chose à faire. On peut faire quelque chose encore du chesed qui ne m'a pas été demandé. Je peux encore faire quelque chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est en fait, l'idée serait que si elle avait répondu tout de suite, je vais aussi abreuver les chameaux. Ça veut dire, c'est sorti comme ça. Tandis que si elle lui a donné à boire, il a demandé à boire, je lui ai donné à boire. Et après, elle s'est demandé, elle a regardé, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on peut faire? C'est-à-dire, il y a une réflexion qui se fait. C'est pas une pulsion. Même une pulsion de générosité. C'est une réflexion. C'est ça le chesed. C'est réfléchir ce qu'on peut faire encore. Encore quelque chose qui n'est pas du tout demandé. C'est-à-dire, d'un seul trait, c'est sans réfléchir, elle ajoute, je veux aussi. Ça, ce serait une espèce de pulsion. C'est une pulsion de quelqu'un qui fait intuitivement, bon, il fait rien de mal, mais c'est pas vraiment du chesed. Le chesed, ça doit être réfléchi. Et là, ce ne serait pas vraiment réfléchi. Réfléchi, c'est aussi de faire, tu fais d'abord ce qu'on t'a demandé. Tu as demandé de lui donner à boire, de lui à boire. Quand il a fini de boire, toi, tu regardes et tu vois qu'il y a encore quelque chose d'autre que tu peux faire. Quelque chose. Et ça, c'est ça vraiment le chesed. C'est-à-dire, en fait, réfléchir. Réfléchir comment est-ce qu'on peut Allez encore un peu plus loin. C'était très généreux de sa part de lui donner à boire, à lui, parce que finalement, il n'avait qu'à aller à la source. Les serviteurs, ils avaient souvent des cruches. Ils pouvaient aller ou bien lui puiser ou bien demander à des serviteurs de puiser pour lui. Il lui demande, donne-moi de ta cruche, en fait. C'est-à-dire, à puiser tout de suite. Alors, il y a une chose en plus, c'est que c'est vrai qu'elle est allée encore puiser pour les chameaux. Il est probablement qu'elle a donné aux chameaux ce qui restait de la cruche dans laquelle elle avait bu, lui. Ce qui était une chose très intelligente, parce que lui demande de faire quelque chose qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. On a l'impression que il boit directement de la cruche. Mais s'il a bu directement de la cruche, alors elle ne peut pas ramener le reste de l'eau à la maison. C'est un type, on ne connaît pas, il a peut-être des maladies ou on ne sait pas. On ne peut pas. Mais d'un autre côté, verser devant lui l'eau qu'il n'a pas bu, ça peut être blessant. Mais une fois qu'elle aura donné à boire au chameau, on va pouvoir récurer sérieusement la cruche en question, puisque les chameaux ont bu dedans. Et à ce moment-là, lui, il ne sera pas vexé. Donc il y a aussi de la chorma dans la façon de faire les choses. Mais surtout, elle a regardé, d'accord? C'est passant le temps. Elle va donner aux chameaux à boire, pas seulement à boire. Elle va puiser pour eux. Pas seulement elle va leur donner ce que lui n'a pas bu. Elle a dit, je vais aller puiser pour eux aussi. Elle va puiser pour eux. Vatishav, elle a puisé pour tous les chameaux.
Donc, c'est plus de recette. Est-ce que c'est lié aussi à la question des résultats des votes ou pas l'empressement? Est-ce que
Non,
c'est
dans
lié à
le
la question?
recette et l'empressement, a priori, ce sont deux choses distinctes. Effectivement, c'est vrai qu'elle se dépêche. Ne fait pas attendre. Quelqu'un a soif, il faut lui donner à boire rapidement. Mais en vérité, elle se dépêche aussi pour donner à boire C'est ça. Elle se dépêche aussi pour donner à boire aux chameaux, pas seulement aux hommes, pas seulement à lui.
Une notion d'effort important aussi.
Oui, c'est énorme.
Parce que j'ai
C'est une petite fille qui va.
j'ai mis ça 40 titres, mais on a entendu 40 titres par 10 et 400.
Et dernière chose, quand ils sont arrivés en vue de là où était Yitzhak, Elle a demandé c'est qui là, le type là que je vois à l'horizon. Et Eliezer a dit c'est mon maître Israël. Il a dit l'Israël, sur Israël, il a dit c'est Adoni, mon maître. Alors il y a un problème, son maître c'était Abraham, c'était pas Israël. Il aurait dû dire, c'est le fils de mon maître. Dans la meute de Jacob, Jacob Kamenetsky répond, en fait, Abraham, il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Donc, il m'a aussi donné son évêque. Donc, Yitzhak est effectivement devenu le maître d'Eliezer. Mais si c'est comme ça, hein, alors on a une autre question. C'est que lui, Eliezer, quand il se présente devant le Tuel Laban, il dit Hachem Eloke Adoni Abraham. Après, il dit Asechesed im Adoni Abraham. Baruch Hashem Eloke Adoni Abraham. Alors là, il faudrait dire peut-être qu'il lui a donné un shtar, un document, et le document, il est chal seulement lorsque Rivka aura accepté. Mais si on fait attention, dit-il, il y a encore un problème, c'est que la Gemara dans Kiddushin, elle dit que Uriah, le mari de Bathsheba, était moré de Malchut. Il s'était donc révolté contre la royauté de David. Pourquoi? Parce que il a parlé de Yoav, le général, et il a dit Adoni Yoav. Et Rashi, il explique que ça s'appelle Mered, parce que appeler quelqu'un devant le roi Adoni, c'est une révolte contre le roi. Alors la question, c'est comment est-ce que Eliezer peut appeler Avraham Adoni lorsque il parle à Hachem dans sa prière? Asechesed, Imadoni, etc. Il parle, donc il mentionne mon maître Abraham, alors qu'il se tient devant Hachem. La Gemara dans Chagiga, elle dit que les Avadim, ils sont patour de la mitzvah d'aller à la Regel, parce qu'ils ont un autre maître que Hachem. Dans le passouk, c'est marqué qu'on monte pour être vu, voir et être vu par Hachem, qui est présenté là-bas comme Adon. Et donc, on dit, les esclaves, ils sont dispensés de la mitzvah de Aliyah à la Regel parce qu'eux, ils ont Mishéchlo Adon Acher. Celui qui a un autre maître que Hachem, il n'a pas la mitzvah. La mitzvah concerne ceux qui n'ont qu'un seul maître, à savoir Hachem. Donc, on voit que si, bon. Alors, comment est-ce que il peut mentionner dans la prière la Adnout d'Abraham? Donc, on est obligé de dire ici que le mot Adoni ne veut pas vraiment dire ici mon Seigneur, mais un peu comme quand Yoshua a dit à Moshe Rabbeinu Adoni Moshe Klaem. Ça veut dire Rabbi. C'est mon maître au sens de Rav. Parce que je suis son élève. Et ça, c'est Moutard. La Gemara, elle explique que si un Rav donne du kavod à son élève, on a le droit de donner du kavod à l'élève devant le rav. Puisque le rav lui-même donne du kavod à cet élève, à ce même élève, on peut donner du kavod aussi devant le rav. Donc ça veut dire que, puisque Eliezer n'avait pas le droit d'appeler Abraham par son nom, parce qu'il a appris la Torah, donc il ne peut pas, c'est comme son père, il ne peut pas dire devant Abraham, donc il est obligé de le nommer autrement. Et comme Hachem donne du kavod à Abraham, alors Eliezer pense que, enfin, Eliezer a le droit de nommer Abraham Adoni devant un kavod. C'est ce que dit donc Rabbi Yaakov Kamenetsky sur le Kumash. Voilà, on va s'arrêter là.